Bon, nous avons vu les dernières fois comment Jésus est devenu, par sa mort sacrificielle et sa résurrection et son ascension, il est devenu le grand prêtre, le souverain sacrificateur, qui a offert une fois pour toutes le sacrifice pour nos péchés, pour que nous ayons le pardon, et qui maintenant est l'intermédiaire, celui qui intercède entre Dieu et nous, et qui nous donne accès à Dieu. Et à cause de cela, la dernière fois, on a vu comment nous pouvons nous approcher de la présence de Dieu avec confiance, avec une pleine confiance, non pas grâce à ce que nous avons fait ou notre mérite, mais à cause de Jésus et de son œuvre et de son sang. Nous avons le meilleur avocat, le meilleur représentant possible qui est à la droite de Dieu et qui nous ouvre la voie. Et donc, dans ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, nous voyons comment, à travers l'œuvre de Christ, c'est vraiment cette bonne nouvelle, cette confiance que nous pouvons avoir dans notre relation avec Dieu grâce à Christ. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la suite de cette pensée. Parce que s'il y a la confiance et l'assurance d'être accepté par Dieu en Jésus-Christ, il y a quand même cet avertissement de ne pas abandonner cette assurance qui est donnée. Parce que ce don si précieux, il faut y tenir et ne pas l'abandonner. Et donc, on va commencer, où on a terminé la dernière fois, au verset 25 d'Hébreux chapitre 10, et en continuant avec la lecture. Et on va commencer avec les versets 25 à 31, qui seront affichés là, mais aussi dans vos Bibles, si vous voulez vous y référer. Donc, Hébreux 10, versets 25 à 31. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et de l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié, sur la déposition de deux ou trois témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit: « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. » Et encore: « Le Seigneur jugera son peuple. » Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Et donc nous avons cet avertissement qui est la suite logique de ce que nous avons lu au verset 25, où il y a deux choses qui sont dites. Premièrement, qu'il y a des gens qui ont l'habitude maintenant d'abandonner l'assemblée, c'est-à-dire de quitter l'église, mais pas juste d'arrêter d'aller au culte, mais c'est l'idée, ils sont en train de s'éloigner de la communauté de foi et de Jésus-Christ aussi. Et avec cela, il y a l'encouragement de ne pas être comme cela, parce que le jour arrive. Okay. Ce jour qui arrive, il peut s'agir d'une intervention de Dieu pour délivrer en Jésus-Christ ou le retour du Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'appel à être ferme. Et maintenant, l'auteur aux Hébreux va vraiment insister sur ce point. Parce qu'il y a un avertissement qui dit, il dit: si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement. Et ensuite, il va suivre après avec une description de la terreur du jugement de Dieu. Et ce passage a toujours été difficile pour les chrétiens, parce qu'on a peut-être l'habitude de parler de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, mais ici on parle quand même du jugement et de la condamnation qui peut venir pour ceux qui sont en Jésus-Christ à cause de certains péchés. Et ici, l'auteur aux Hébreux, qui est vraiment très attentif et très soigneux dans le choix de ses mots, donc comment il va s'exprimer, ici, il est très direct et très dur en parlant. Et il veut décrire un danger extrême pour ses croyants. Pour ceux qui ont pratiqué le péché qui est dit ici, autant la confiance était grande pour s'approcher de Dieu, autant maintenant la certitude du jugement existe. Et donc, il y a un contraste qui est très fort. Pour ceux qui sont en Christ, on peut venir jusqu'au trône de Dieu avec une pleine assurance et une pleine confiance. Mais pour ceux qui ont commis ce péché, avec ce péché volontaire, ici c'est la pleine certitude, mais non pas d'être accepté, mais du jugement qui est là. Et c'est une certitude terrifiante. Le jugement, d'ailleurs, il va faire une comparaison en encourageant ces fidèles chrétiens qui connaissaient l'Ancien Testament de songer au jugement dans l'Ancien Testament. comment ceux qui violaient la loi de l'Ancien Testament étaient mis à mort. Et il faut souligner, ce n'était pas tous les péchés de l'Ancien Testament qui étaient pour peine capitale. En fait, ce n'était même pas la majorité des péchés. Mais il y avait certains péchés dans l'Ancien Testament, si on était reconnu coupable, on était mis à mort. Et certains des plus connus, c'était l'idolâtrie ou bien le blasphème. L'idée d'insulter ou de se révolter contre Dieu, ou bien d'adorer d'autres dieux que Yahvé. Et pour ces péchés-là, bon, la peine, c'était la peine capitale. Et l'auteur encourage les chrétiens à réfléchir. Si de s'en prendre à Dieu dans l'ancienne alliance, qui était fondée sur des moins belles promesses, sur des moins bons, des dons inférieurs qui avaient été donnés par Dieu, si ça, cela encourait la peine de mort, combien plus l'alliance basée sur le Fils de Dieu lui-même ? Et si on violait cette alliance, combien plus on peut être certain du jugement qui vient. Et l'auteur donc cite deux passages de Deutéronome chapitre 32, les versets 35 et 36, en disant « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, et encore le Seigneur jugera son peuple. » Et ce qui est intéressant, si on va dans Deutéronome 32 pour lire ce passage, c'est dans un cantique que Dieu a enseigné à Moïse pour tout le peuple, que le peuple allait apprendre, qui était un cantique pour rappeler le peuple à la repentance lorsqu'il se rebellait contre Dieu, contre Yahvé. Et donc, même ce passage-là, c'est pour rappeler aux gens que Dieu va commencer son jugement avec son propre peuple. Il ne va pas commencer avec ceux du dehors, mais avec ceux qui se sont engagés auprès de lui. Et il faut souligner que c'est un passage terrifiant, parce qu'on parle ici d'une condamnation certaine et inévitable. Et bien entendu, nous ne voulons pas tomber dans cette condamnation. Mais il faut poser la question, de quoi s'agit-il exactement ? Lorsqu'on regarde dans l'histoire de l'Église, et surtout dans les premiers siècles après la mort des apôtres, il y a eu diverses réactions à ce passage et d'autres qui semblent aller dans la même direction pour essayer de l'interpréter, mais aussi de l'appliquer à la vie de l'Église. Et une des choses qui en est sortie, c'est l'enseignement qu'il n'y avait pas de pardon ou peu de pardon disponible après le baptême. C'est-à-dire Dieu est riche en miséricorde et prêt à couvrir tous les péchés et à pardonner, mais une fois qu'on est baptisé, le péché devient une profanation du sang de Christ et le pardon est peu ou pas accessible. Et donc souvent, bon, les théologiens ou les dirigeants des églises, ils essayaient de faire un peu une distinction, un tri. Alors certains péchés n'allaient pas être si grave, si terrible, mais par exemple l'adultère ou les péchés sexuels, on disait on peut le faire une fois après le baptême et là encore recevoir le pardon, mais après c'était trop tard. Et il y a toutes sortes de questions parce que ces théologiens, ces chrétiens étaient perturbés par ce passage et d'autres et essayaient de savoir quel était ce péché volontaire. Et donc c'était un des enseignements qui est sorti. Une pratique qui en est venue aussi, c'était avec cette crainte de ne pas recevoir le pardon de Dieu après la conversion, c'était d'attendre le baptême le plus tard possible. Si possible, juste avant sa mort, on est baptisé, ça donne peut-être 2 ou 3 jours où il faut vivre sans péché, et puis c'est bon. D'accord ? Et donc le salut est offert. Et ça, c'était une pratique qui s'est développée, pas immédiatement, mais au fil des siècles. Pour certains, c'était simplement une réaction de désespoir. Parce que nous le savons, les chrétiens pêchent aussi, et de dire, bon, et tout péché implique la volonté. Implique une décision. Alors, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. Il y a la faiblesse, il y a la tentation, il peut y avoir l'ignorance, la pression de groupe, la souffrance et différentes choses. Mais tout péché implique une part de volonté aussi. Et une décision d'agir contrairement à la volonté de Dieu. Et donc, pour certains, c'était simplement cette réaction de désespoir en disant, bon, quelle espérance d'être sauvé une fois qu'on est sauvé. Parce que ce pardon semble être enlevé. Et puis finalement, une autre pratique qui venait aussi avec l'idée de repousser le baptême au maximum, c'était la pratique qu'on appelle des pénitences. Et ça, c'était une réponse un peu inverse à celle-ci. Donc il y avait l'enseignement qui disait, il n'y a pas, ou peut-être une fois, voire 2 fois le pardon après le baptême. Un autre disait, bon, il y a le pardon continuel après le baptême, mais il faut passer par une série de rituels, une série de pratiques spécifiques pour pouvoir être pardonné, pour donner l'assurance. Et donc, c'était des gestes rituels pour recevoir le pardon. Bon, il y avait des problèmes avec tous ces enseignements. Le premier, et peut-être le plus clair, c'est que ceci contredit, s'il n'y a pas de pardon après la conversion, après le baptême, alors il n'y a pas d'assurance pour venir vers Dieu. n'est-ce pas? Et on vient de terminer toute une série de versets qui décrivent la gloire et la certitude de l'assurance que nous avons auprès de Dieu en Jésus-Christ, et de dire ensuite, mais dès qu'on a fait un péché, il n'y a plus d'assurance du tout. Ça ne colle pas du tout, n'est-ce pas? Ça ne correspond pas avec la prédication et l'enseignement que nous entendons. Si c'est vrai qu'il n'y a presque pas de pardon disponible après le baptême, alors il n'y a aucune assurance devant Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Sauf si vous êtes parfait. Donc, dans quel cas, je vous félicite et continuez comme ça. Mais pour les autres, d'accord, il n'y a aucune assurance devant Dieu. Bon, si on attend le plus tard possible, avant la conversion, avant le baptême, bien sûr, il y a tout plein de problèmes là aussi. Ça va complètement à l'encontre de tout le message de l'Évangile, où ceux qui croient et qui acceptent sont baptisés, entrent en Christ et vivent plein de joie dans la présence de Dieu. Mais pourtant, le fait d'avoir mal pris ce passage encourageait les gens à faire l'inverse, à vouloir la foi en Christ, à vouloir être le fait d'être chrétien, mais de vouloir rester loin de ça aussi longtemps que possible, et puis juste à la dernière minute, de prendre la bouée de sauvetage. Et il n'y a aucune correspondance entre ça et la pratique de l'Église qui est en train de recevoir cette lettre et de tous les premiers chrétiens. Le désespoir, de nouveau, cette contradiction avec la confiance et avec la certitude qui est offerte en Jésus-Christ. Et puis finalement, ces actes de pénitence, ça peut nous sembler peut-être le plus normal. Peut-être on va confesser ses péchés une ou deux fois par semaine. Peut-être qu'il y a un rite qu'on peut faire pour recevoir le pardon des péchés de la dernière journée. Mais on se souvient qu'au chapitre 10, au tout début, au verset 1 à 4, l'auteur a rappelé une des plus grandes faiblesses des sacrifices de l'ancienne alliance. C'était qu'on devait les offrir continuellement parce qu'elles ne pouvaient pas enlever les péchés de manière permanente. Et plutôt que d'être une source de pardon et de réconfort, c'était le rappel quotidien, ou hebdomadaire, ou annuel, du péché devant Dieu. Et ça, c'est les pénitences, malheureusement. Dans la pratique, ça devient aussi un de ces rappels continuels que le péché est toujours présent et n'a pas été enlevé. Et il y a ce besoin de répéter sans arrêt, ici pas des sacrifices, mais des gestes spécifiques pour avoir le pardon. Donc, ces pratiques ne correspondent pas à tout le reste du message de l'Épître aux Hébreux, à tout le reste du message du Nouveau Testament, de l'Évangile et de Jésus-Christ. Mais on peut comprendre comment ils sont arrivés à cette conclusion, n'est-ce pas, quand on prend le langage du passage. Donc il faut poser la question, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce péché? Bon, j'aimerais quand même vous rassurer que l'auteur aux Hébreux croyait qu'on pouvait être pardonné après la conversion, en étant chrétien, que le pardon était disponible. Quelques passages qu'on peut regarder. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, nous lisons « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Rejeter le Fils de Dieu, je ne sais pas, ça c'est un copier-coller, une erreur qui est là. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Mais ici, il dit nous que dans notre relation avec Dieu, en s'adressant à des chrétiens, en s'adressant à des gens qui sont en Christ, il dit « Nous nous approchons du trône de grâce ». Et que la relation avec Dieu est caractérisée principalement par le pardon et la miséricorde de Dieu, non pas sur une perfection personnelle. Et il y a toujours ce rappel qu'on est secouru. Au chapitre 5, le verset 2, nous lisons que le souverain sacrificateur, et ici c'est pour parler de l'œuvre de Jésus, que Jésus peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et de nouveau, je ne sais pas où vient le texte qui est là. Mais l'auteur dit ici que Jésus, qui est notre souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur de ceux qui sont sauvés, il est plein de compréhension pour les ignorants et les égarés. Et ça, c'est les sauvés. Ce n'est pas les gens du dehors, c'est vrai aussi. Mais même pour ceux qui sont dedans. Donc on peut être des chrétiens ignorants, on peut être des chrétiens égarés et pleins de faiblesses, mais quand même recevoir la compassion de Christ. C'est pour ça qu'il est là. Un peu plus loin, au chapitre 12, le verset 7, qu'on verra dans les semaines qui viennent, nous lisons ceci, une exhortation pour les chrétiens. « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne châtie pas ?» Et ici, bon, on n'aime pas trop l'idée d'une correction, okay, mais il dit « Dieu va vous châtier ». Bon, pourquoi est-ce qu'il châtierait les chrétiens? Bon, c'est pour des péchés, mais pas dans le but de condamner, mais de les redresser. Et de nouveau, si c'était juste « Bon, on commet un péché », on est en train d'agir contrairement à la volonté de Dieu, c'est fini. Bon, Dieu ne serait pas en train de châtier comme un fils, n'est-ce pas? Ce serait déjà fini. Et puis au verset 14, toujours du chapitre 12, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification, c'est de grandir dans la ressemblance, dans la bonté, dans la pureté de Dieu. Et si on recherche la sanctification, ça veut dire qu'on n'est pas encore parfaitement saint, n'est-ce pas ? Pour avoir cette croissance dans la sainteté, il faut commencer quelque part d'inférieur. Donc, dans toute la vision du monde de l'auteur aux Hébreux, les chrétiens ne sont pas parfaits. Mais ils sont en train de devenir de plus en plus parfaits. Ils sont en train de se rapprocher de Dieu. Mais ils commettent des péchés. Ils sont faibles. Ils ont besoin de correction. Mais ils ne sont pas déchus de la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez ça ? Vous êtes d'accord ? Et bien sûr, il y a tout le reste du témoignage biblique qui vient avec. Donc ici, on n'est pas en train de dire « Vous êtes chrétien, vous commettez un péché, vous allez en enfer. » Ce n'est pas ça. Ou vous êtes jugé par Dieu. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe. Si on revient au passage, et si vous avez dans vos Bibles, regardez de nouveau au chapitre 10, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Voici certaines des choses qui apparaissent. Premièrement, il dit ici « On pêche volontairement. » Et comme on a vu, tout péché implique la volonté. Mais il y a quand même un écho ici, un langage qui revient assez souvent dans l'Ancien Testament. De nouveau, on parle à des gens experts dans l'Ancien Testament qui reçoivent cette lettre. Mais l'idée, il y a les péchés involontaires et les péchés volontaires dans l'Ancien Testament. Tous impliquent une volonté, mais dans l'Ancien Testament, la notion de péché volontaire, c'est l'idée d'une rébellion contre Dieu. Ce n'est pas juste qu'on fait le mal parce qu'on est tenté ou autre chose, mais on désire s'opposer à Dieu. Le but est d'outrager le nom de Dieu, de se rébeller contre lui. Et c'est comparable à un autre terme qu'on a moins souvent, mais qui s'appelle le péché, la main levée. C'est l'idée, on lève le poing contre Dieu pour lui montrer qu'on est son ennemi. Et dans l'Ancien Testament, c'est justement le blasphème ou l'idolâtrie qui était le péché à main levée et qui était puni de mort. Donc ça entre là-dedans. Donc quand on lit le péché volontaire, il faut penser Ancien Testament, c'est-à-dire la rébellion contre Dieu. On se soulève contre Dieu et contre son alliance. Ce n'est pas juste l'idée qu'on commet un péché, parce que pour cela, il y avait les sacrifices. Et de la même manière, il y a cette notion de se soulever contre Christ dans cette lettre. Au verset 29, il y a la description du péché, parce qu'il va y revenir après cette parenthèse de deux versets. Mais il dit « Pour celui qui pêche volontairement, il est en train de fouler aux pieds le Fils de Dieu, de tenir pour profane le sang de l'Alliance et en train d'outrager l'Esprit de la grâce. » Et c'est un langage extrêmement fort qui est ici. Et c'est ici, on voit que c'est un péché contre Jésus-Christ lui-même, contre le Saint-Esprit, contre le sang qui est donné. Et ce passage, finalement, fait partie de toute une série d'avertissements. C'est l'avertissement le plus fort de toute la lettre, mais fait partie de toute une séquence d'avertissements qui vont parler du même sujet. Au chapitre 2, verset 3, nous lisons « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» C'est-à-dire si on néglige la grâce qui nous a déjà été donnée. Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et s'il dit, si on néglige le salut, il n'y a aucune espérance pour l'avenir. Bien entendu, si on se détourne de la grâce, où est-ce qu'on va la trouver autre part ? Au chapitre 3, verset 12, nous lisons, « Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Et de nouveau, c'est l'idée là de tourner le dos à Dieu, de s'éloigner de lui. On appelle ça l'apostasie, ce qui signifie simplement plutôt que de confesser Christ, on rejette Christ, publiquement et volontairement. Et puis au chapitre 12, verset 25, voici ce qu'on lit. « Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle, car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, donc l'Ancien Testament, à bien plus forte raison, ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. » Et de nouveau, aucune espérance pour celui qui se détourne de Christ, aucune espérance pour celui qui se détourne de Dieu, aucune espérance pour celui qui se détourne de la grâce qui est donnée. Et c'est toujours systématiquement cette idée, non pas juste de commettre n'importe quel péché, même s'il ne veut pas encourager le péché, mais l'idée de se détourner, de rejeter, de divorcer, en quelque sorte, Christ. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui que nous avons déjà vu en détail, mais c'est Hébreux 6, les versets 4 à 6, où on dit presque exactement la même chose. « Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et saint, et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. » Et vous voyez, il y a une similitude de langage entre le chapitre 6 et le chapitre 10. Et il y a tout plein de questions pour le chapitre 6, mais vous pouvez le voir avec Brady après pour ça, quand on a fait l'étude avec. Mais au chapitre 6, en fait, il a introduit pour la première fois le thème qui revient ici. Et dans les deux cas, il parle de ceux qui ont goûté, ceux qui ont connu la vérité de Christ, ceux qui l'ont rejeté et qui ont profané Christ en le faisant. Et ce qui est intéressant dans la suite, qu'on verra au chapitre 10, et il fait la même chose au chapitre 6, il va rappeler les œuvres bonnes qu'ils ont faites, et il va les rappeler à la repentance. Donc c'est un peu cyclique, il va faire les mêmes arguments. Bon, donc qu'est-ce qui se passe? Quel est le péché qui est ici? C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler l'apostasie volontaire. Rejeter Christ, insulter son nom, abandonner la foi et se détourner de lui. Et il y avait une tentation réelle chez certains des chrétiens de faire cela. Soit en se disant, bon, il y a une autre source d'espérance et de vie éternelle, soit en se disant, bon, Dieu est indifférent, soit simplement à cause de toutes les pressions et des difficultés de dire, ça ne vaut pas la peine. Mais il y avait cette tentation de renier Christ. Et l'apostasie, donc le rejet de Jésus, était souvent accompagné de ces injures contre le nom de Christ. Au début du deuxième siècle, donc on ne sait pas exactement combien, 50, 60 ans après que la lettre a été écrite, Pline le Jeune était un gouverneur au nord de la Turquie actuelle et il persécutait les chrétiens. Mais voici sa méthode pour voir s'il fallait tuer le soi-disant chrétien ou non. Il écrit à l'empereur pour savoir s'il fait la bonne procédure. Et il dit « Ceux qui niaient être chrétiens ou l'avoir été, quand ils répétaient après moi la formule « Invoquons les dieux » et qu'ils sacrifiaient par le vin et l'encens à ta statue, donc la statue de l'empereur, que j'avais fait apporter pour les circonstances avec les images des dieux, et qu'en plus ils injuriaient le Christ, toute chose qu'on ne peut, dit-on, obtenir d'un chrétien authentique, j'ai cru bon de les relâcher. » Il dit « Si on veut savoir si c'est un chrétien ou non, on fait offrir des sacrifices aux idoles et insulter le nom de Christ. Parce que s'ils sont des vrais chrétiens, tout le monde sait, ils ne vont pas le faire. » Bon, là, c'est dans un contexte de persécution, de mettre la pression sur eux. Et l'apôtre Paul, il dira, lorsqu'il est arrêté par les Romains, que lui aussi, lorsqu'il persécutait l'Église, il faisait blasphémer les Juifs chrétiens devant les foules qui étaient là, devant la synagogue, il me semble. Mais cette idée, pour forcer les gens à abandonner la foi, il faut insulter Christ. Mais on pouvait le faire volontairement aussi. Si on voulait rejeter la foi en Christ pour un avantage social, pour échapper aux punitions qui allaient venir pour les chrétiens, pour intégrer la vie religieuse païenne plus pleinement, ou pour revenir dans la synagogue si on avait été chassé à cause de la foi en Christ. Donc qu'est-ce qu'on faisait publiquement? On allait insulter Christ. On allait insulter son sacrifice et le faire. Et voilà le danger pour ces gens. Ceux qui sont tentés de faire cela, ils imaginent qu'il n'y aura pas de conséquences devant Dieu. Ils doivent savoir que cela mène à la mort et à la condamnation. Donc juste pour, vous avez été très patient, mais c'est important de comprendre cela, sinon on peut partir dans tous les sens avec ce texte. Le crime qui est digne de jugement ici, c'est commis par ceux qui sont déjà en Christ. Okay, ce n'est pas le blasphème de ceux qui ne connaissent pas Christ, mais c'est ceux qui ont accepté sa grâce, qui comprennent ce qu'ils font. Et c'est l'acte de rejeter le Fils de Dieu, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est de considérer le sang de Christ comme sans valeur, ou même comme impur, comme une saleté. Quand c'est le sang de Christ qui est la base de notre relation, de l'alliance avec Dieu, et la seule chose qui peut ôter nos péchés. Et c'est d'outrager finalement le Saint-Esprit, d'insulter et de repousser l'Esprit qui nous donne l'espérance de la résurrection et d'une relation avec Dieu. Et il s'agit ici d'une apostasie donc délibérée et volontaire. Et le message est clair, si les chrétiens vont dans cette direction, il n'y a aucune espérance pour eux. Et c'est naturel. Si on se coupe de tout ce qui nous sauve, comment est-ce qu'on peut être sauvé? Si on rejette la bouée de sauvetage, on va se noyer. C'est inévitable et il n'y a aucune espérance. Mais heureusement, le passage ne s'arrête pas là et on va regarder très rapidement la fin. Parce que l'auteur ne pense pas que les chrétiens vont tomber dans ce péché. Il dit « Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part, vous rendant solidaires de ceux qui subissent ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. » Bon, l'auteur ne s'arrête pas et ne s'arrête jamais juste avec l'avertissement. Il veut souligner qu'il connaît leurs œuvres bonnes, qu'il sait le bien qu'ils ont fait par le passé, leur fidélité, et il veut leur rappeler à ces choses-là. Ils doivent revenir à leur ancienne attitude, leur ancienne détermination. Et ils ont été persécutés. Et voici les choses qu'ils ont endurées. Bon, il dit, les persécutions étaient grandes et douloureuse. Donc ce n'était pas du tout quelque chose de facile à endurer. C'était le mépris public. Et ça, ça peut regrouper beaucoup de choses. Ça peut être les insultes des passants qui savent qu'ils sont chrétiens. Ça peut être même dans le cadre d'une persécution d'État. On les amène devant les foules pour être hués, pour être insultés, pour être parfois torturés. Il parle de tribulation. Et les tribulations, ça peut être la honte publique, la mise à l'écart, mais ça peut même aller jusqu'aux souffrances physiques, les tribulations qui sont données là. Et on voit, et c'est pas exactement clair s'ils ont été torturés ou non pour la foi, mais en tout cas, c'est une grande souffrance qui est venue. Et puis finalement, la confiscation des biens. Des membres de l'Église, peut-être pas tous, mais il y en a qui ont perdu tout ce qu'ils avaient, on leur a pris tous leurs biens. Et à d'autres endroits, on parle aussi des prisonniers, de ceux qui ont été mis en prison. Donc jusqu'à la prison, il y a eu cette persécution. Au chapitre 14, il dira « mais pas jusqu'au sang », qui à mon avis veut dire « pas jusqu'à la mort ». Donc il y a encore une étape de persécution qui peut venir et qui est là, mais ils ont enduré toutes ces choses et ils l'ont fait avec une bonne attitude, n'est-ce pas ? Ils ont enduré toutes ces choses, ils sont restés fidèles, mais non seulement cela, ils ont aidé, ils ont soutenu ceux qui souffraient plus qu'eux. Peut-être certains étaient méprisés, mais ils ont aidé ceux qui étaient mis en prison, ceux qui avaient perdu leurs biens, ceux qui avaient eu cette souffrance publique. Et ils ont soutenu leurs frères et les sœurs qui étaient dans le besoin. Et ça, c'est une très belle chose. Il y avait cette solidarité avec les persécutés. Et donc, ils ont un fondement solide, malgré les épreuves. L'auteur sait qu'ils peuvent rester fidèles. Et donc, nous arrivons à cette belle conclusion. Hébreux chapitre 10, donc maintenant les versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. L'auteur dit, et nous allons être ceux qui restent fermes dans la foi. Et il fait, vous avez vu en italique, deux citations de l'Ancien Testament. Ésaïe 26, verset 20, premièrement, où il dit « Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. » Et ce qui est intéressant quand on regarde ce passage, c'est Dieu qui parle à son peuple, qui est en train de souffrir à cause des forces militaires étrangères, et dit « Tenez bon, restez fidèles, encore un peu de temps, et la délivrance va venir. » Et dans Habacuc 2.4, le deuxième passage qui est mentionné ici, le prophète s'est adressé à Dieu en disant « Jusqu'à quand est-ce que tu vas laisser continuer ces persécutions ?» et ces injustices même au milieu de ton peuple. Et Dieu répond de garder patience parce qu'il va venir bientôt et en encourageant Habacuc et les autres de rester fidèles en disant « Et mon juste vivra par la foi. » Donc deux citations très bien trouvées où le peuple de Dieu a souffert et attendait que Dieu intervienne sans le voir. Et Dieu a répondu toujours « Je vais intervenir, je vais sauver. » Et c'est le cas aussi pour ces chrétiens. Ils sont tentés d'abandonner. Ils sont tentés de renier Christ parce que cela ne vaut pas la peine. Mais Dieu donne toujours cette réponse et Christ donne cette réponse. Je vais vous délivrer, tenez bon, il y a une récompense qui vient. Donc ce que ce passage nous apprend, il est possible de tomber. Pour ceux qui sont en Christ, il faut savoir que si nous jouons avec le péché, ou si nous sommes trop attachés aux choses de ce monde, il y a ce risque d'abandonner la foi. Sinon, l'épître aux Hébreux n'a aucun sens, si c'est juste des scénarios hypothétiques, imaginés. Il y a un réel danger pour ces chrétiens. Et nous devons savoir cela. Pas pour nous inspirer à la crainte tous les jours, est-ce que Dieu va me rejeter, est-ce que Dieu va me rejeter. Mais plutôt pour vivre avec sagesse et pour aussi regarder dans le monde et dire quelle est la trajectoire de ma vie, est-ce que je suis en train de grandir en Christ pour rester fidèle au moment de l'épreuve et de la tentation. Parce que Christ ne va pas nous rejeter, mais nous pouvons le rejeter. Donc, qu'est-ce que nous faisons avec nos vies? Nous voyons aussi que Dieu permettra aussi que son peuple soit persécuté. Les chrétiens qui ont reçu les lettres, les épîtres du Nouveau Testament, étaient des chrétiens persécutés et qui connaissaient la souffrance. Et nous leurrons si nous imaginons que la vie en Christ, c'est sans difficulté. Dieu permet la souffrance. Mais en même temps, il y a deux réponses à cela. La première, c'est que l'Église a la responsabilité de soutenir les frères et sœurs qui sont persécutés. Pas de se protéger elle-même, mais de soutenir ceux qui passent par la persécution. Et Dieu a donné à ceux qui souffrent pour leur foi une famille pour prendre soin d'eux, pour prendre soin de leur famille et d'être autour d'eux. Et nous ne vivons pas dans un contexte de persécution, mais si un jour ça arrive, j'espère que l'Église saura que sa responsabilité, c'est d'aider et de soutenir ses membres qui sont persécutés. Et pour les autres dans le monde, de prier pour eux, d'intercéder pour eux de différentes manières qui sont possibles. Mais il y a une deuxième réponse, et ce n'est pas juste l'Église, mais c'est la promesse que Dieu va délivrer son peuple. Que toute persécution, toute opposition à l'Église aura une fin, prendra fin. Que Dieu ne va jamais abandonner ses fidèles, mais il va venir. Et la dernière et la bonne nouvelle, c'est pour ceux qui persévèrent à travers les tentations, à travers les persécutions, il y a une récompense qui vient. Dieu prévoit quelque chose de merveilleux pour ceux qui sont restés fidèles à travers les difficultés, pour ceux qui n'étaient pas prêts à faire de compromis et à abandonner celui qui les a aimés. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous aussi. Nous attendons non seulement la vie éternelle et le pardon, mais une récompense pour la fidélité. Et s'il y a une part toujours de crainte, parce que Dieu est puissant et saint et grand et glorieux, bon, il y a aussi cette assurance et cette joie de savoir que nous allons vers la récompense dans le repos de Dieu.